Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des acteurs et des actrices les plus intéressants de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Anselme Jallon, le CEO du Numa, un acteur historique de l'écosystème numérique français, qui nous raconte comment le no-code a permis de vraiment transformer la société, la faire pivoter, la passer à l'échelle sur une activité de formation. Un super échange que j'ai trouvé passionnant et j'espère que ça vous plaira aussi. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Anselme, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Alors tu es le directeur général du Numa, une institution de la tech parisienne qui est issue de Silicon Sentier, la cantine et le camping, des acteurs historiques moi, que j'ai bien connus dans les années 2010. Voilà, vous êtes désormais spécialiste dans la formation et il se trouve qu'il y a pas mal de no-code qui vous a aidé un peu à opérer ce pivot et puis surtout à le passer à l'échelle. J'espère que tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Salut Alexis. Enchanté de faire ce podcast Radio Contournement avec toi. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Anselme, je suis le CEO de Numa. Qu'est-ce que je peux te raconter ? J'ai passé les 10 dernières années de ma vie professionnelle chez Faber-Novel. Je suis arrivé en 2012, c'était mon premier job, même si avant j'avais monté une startup de livraison de petits déjeuners à domicile avec des copains, qui était un peu avant l'époque Foodora, Gorillaz, etc. Un peu trop tôt, je pense, et puis avec plein de bêtises, mais évidemment, comme tous les entrepreneurs, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Je suis arrivé chez Faber, on devait être une quarantaine. Et j'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu particulier parce que en 2014 j'ai monté l'activité de Faber-Novel dédiée à l'apprentissage, au développement de compétences qui s'appelle Faber-Novel Institute et au change management, voilà, accompagnement du changement, entité qu'on a fait grandir jusqu'à atteindre 65-70 collaborateurs quand je suis parti. Voilà, donc c'était une belle aventure intrapreneuriale chez Faber-Novel avant de passer en début d'année de cette année, là, 2022, chez Numa et de prendre la suite de Romain qui était le précédent CEO. Voilà.
Super. Moi, j'aime bien remonter un petit peu, juste connaître un petit peu ton parcours.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Ça montre aussi un petit peu la variété des gens qui en viennent d'une manière ou d'une autre un peu à être exposés et touchés au no-code. Ouais. Voilà, juste un peu quelles études. Et puis, je ne sais pas si tu as envie de dire deux mots quand même sur cette aventure entrepreneuriale. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés aussi par ça. Donc,
Ça marche. Écoute, moi, je n'ai pas du tout un profil technique à la base. Je suis plutôt un technophile, technocurieux, t'appelles ça comme tu veux. J'ai toujours été passionné par la nouveauté, l'innovation, les technologies. Comme beaucoup de petits garçons, j'ai passé ma jeunesse à démonter des trucs, à démonter des radios, démonter des montres.
Est-ce que tu arrives à les remonter ?
Non, c'est un peu le problème. Ça rendait fou mes parents à l'époque, mais j'aimais bien démonter, mais pas remonter. Ouais. Plutôt profil, même j'irais pas littéraire, mais en tout cas, j'ai commencé par des études de droit. Donc vraiment rien à voir et rien ne me destinait à faire du no-code, mais en tout cas à travailler dans une boîte d'innovation, dans les startups. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'en faisant du droit, c'était super. Franchement, ça m'a appris à être structuré, à être une certaine forme de rigueur. Mais ensuite, une fois qu'on fait du droit, on fait du droit toute sa vie, quoi. Et donc, c'est un peu ce côté un peu limitant qui m'a orienté vers une école de commerce. Donc, j'ai fait le Mion après. J'ai découvert qu'on pouvait faire plein de trucs et des trucs beaucoup plus variés. J'ai bossé à la direction de la stratégie de la FNAC, j'ai fait du conseil en stratégie et comme je te disais, j'ai monté une start-up de livraison de petits déjeuners qui s'appelait tidej.fr.
Est-ce que c'était pendant tes études ça ou...
C'était pendant mes études, ouais. On s'est mis à livrer, j'ai plus les chiffres en tête, mais des centaines de petits déjeuners à domicile à Lyon. Okay. Donc c'était vraiment bootstrappé avec quelques copains, on était 5. Et c'était hyper marrant, on respectait pas les sujets de propriété intellectuelle, pas trop, je devrais pas le dire, il y a péremption les sujets de sanitaire, etc.
Okay.
Mais c'était super intéressant sur justement comment tu montes un site internet, un service de livraison à domicile à partir de rien avec nos blanches mains. Et on a appris plein de trucs sur les opérations et sur comment créer une boîte Voilà. Après, si c'était à refaire, on était trop, t'es pas assez focus. Voilà.
Juste par curiosité, justement, parce que moi, le sujet des opérations, c'est vrai que c'est un peu ma passion maintenant, parce que je trouve que le no-code peut apporter énormément là-dedans. Comment vous vous organisiez ? Enfin, je sais pas, juste la logistique, parce que j'imagine que c'est quand même une énorme logistique.
Bah, écoute, c'était vraiment à la mano, quoi. Donc, on passait le matin récupérer nos croissants et nos revues, parce qu'on livrait aussi le journal du jour ou la presse hebdomadaire avec nos petits déjeuners. Donc on passait le matin récupérer tout ça avec une boulangerie partenaire et ensuite on prenait nos vélos et on allait livrer ça à domicile et les commandes étaient faites sur internet.
Et vous aviez chacun une liste? Du coup, comment ça vous arrivait du site?
Ouais, ça nous arrivait soit par téléphone, donc là c'était un peu galère avec le système de messagerie, soit ça nous arrivait sur le site, sur un formulaire type, aujourd'hui ça serait un Google Form, quoi, si tu veux, avec adresse, heure de livraison. Il y avait plein de choses à automatiser, je pense qu'on va reparler pendant ce podcast, ce qui fait que c'était extrêmement chronophage et assez galère rapidement. On a créé un modèle qui n'est pas du tout scalable dès le début, quoi. Ouais. Voilà.
Ok, bon écoute, super intéressant. Et donc finalement, tu as donc différentes expériences qui t'ont amené jusqu'à Faber Novel.
Ouais.
Est-ce que tu veux dire en deux mots peut-être déjà ce que fait Faber Novel?
Oui, bien sûr.
Quand même, en plus, il y a des sujets maintenant no-code avec Unlock, etc.
Exactement.
Donc, mais pour que les gens situent un peu du coup cet acteur aussi.
Oui, tout à fait. En plus, j'y ai passé 10 ans, donc j'y reste encore assez attaché. Ouais. J'y ai plein de copains. Donc, Faber Novel, c'est une agence d'innovation qui a été créée en 2003. Donc ça a quand même un certain nombre, quasiment 20 ans d'ancienneté, avec cette vocation d'aider des grands groupes à travailler, penser comme des startups. C'était le motto à l'époque, qui a quelque peu évolué depuis, évidemment. C'était assez précurseur, parce qu'en 2003, finalement, on ne parlait pas encore, comme aujourd'hui, autant du monde des startups. Il n'y avait pas de licorne. Ouais. Voilà. Et donc, Faber Novel a été assez précurseur sur la structuration de l'écosystème tech, innovation à Paris et ailleurs. Mmh. On a monté, Faber Novel a monté un des premiers coworking space à San Francisco. Ça s'appelait, Faber Novel opérait jusqu'à l'année dernière, qui s'appelait Paris Soma.
Paris Soma, oui. On y était quand on était en 2019. On était à la NoCode Conf à San Francisco. D'accord. Et on a eu l'occasion d'aller. Et j'étais assez déçu d'apprendre que récemment, ça avait fermé finalement.
Ouais, ça a fermé.
Ça a l'air d'être un beau projet, mais assez difficile peut-être aussi à opérer.
Et puis, Faber Novel s'est fait rattraper en termes d'investissement par les WeWork et autres. C'est quand même un autre business, quoi. Ouais. Voilà. Et Faber Novel est une agence qui aujourd'hui comporte 400 personnes à peu près sur quatre grands sujets, des sujets de stratégie digitale, enfin stratégie dans le monde digital, des sujets de tech pure où on aide des clients, principalement des grands groupes, à créer des outils, des applications, des sites web pour optimiser les opérations, la relation client, etc. Et puis une partie marketing digital et une dernière partie qui est celle que j'animais avant mon départ, qui est la partie culture, enfin transformation, dans laquelle il y a des activités de learning, de développement des compétences, de change et un petit peu d'orga. Voilà.
Et sur le sujet, alors, est-ce que du coup ça englobe, j'imagine, plus spécifiquement le sujet de la transformation numérique? Enfin, tu vois, c'est un sujet qui revient énormément. Maintenant, il y a beaucoup de consultants là-dessus. Très franchement, je trouve qu'aussi, il y a beaucoup de bullshit. Enfin,
ouais, carrément.
Mais du coup, est-ce que tu veux... Enfin, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'il y a beaucoup de flou. Et tu vois, un peu, quelle est toi un peu ta définition? Mais surtout, un peu, c'est quoi les enjeux, tu vois? Parce que du coup, vous, c'était surtout sur les grands comptes.
Ouais, j'imagine. Exactement. Ouais, ouais.
Et c'est aussi peut-être un peu un sujet différent de la transformation numérique que doivent opérer aussi peut-être les TPE, PME... Même s'il doit y avoir des choses aussi derrière qui se regroupent.
Donc la définition et les grandes convictions sur la transformation digitale, quoi. Écoute, je pense qu'en effet, ce n'est pas la même question quand on est un grand groupe ou une PME, TPE. D'abord, il y a des questions de moyens qui sont mis derrière. C'est Vivatech en ce moment. Donc, quand on voit les moyens qui sont mis par les grands groupes pour briller à Vivatech, parfois, c'est un peu édifiant, quoi. Néanmoins, maintenant qu'on s'est dit ça, si tu veux, pour moi, quand on parle de transfo digital, tu as vraiment un axe avant tout tech qui est-ce que je vais m'équiper des bons outils, est-ce que je vais mettre suffisamment d'argent sur la table pour avoir les bonnes techniques, les bons leviers marketing, etc. Et puis derrière, j'ai souvent tendance à dire que la transfo digitale, mais comme toute transfo, en fait, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est avant tout une question de culture et d'état d'esprit. C'est ça qui, moi, m'intéresse derrière ce sujet de transformation digitale, de tout ce qui se passe en ce moment autour de l'innovation. C'est qu'en fait, c'est pour des grands groupes, quelque part, un retour au bon sens commerçant. Par la taille qu'ils ont atteint, quand on est une boîte de 100 000, 300 000 collaborateurs, on perd cette sorte d'agilité, de proximité au client. C'est pour ça que quand on dit travailler, penser comme des startups, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire du bon sens, de répondre aux questions des clients, créer un produit, un service qui va vraiment répondre à un besoin, à un problème client, qui a un vrai problème client et que pas juste un truc dont personne n'a besoin, qui est plutôt de se lancer dans un projet de 6 mois, 1 an, sans jamais avoir posé une question à un client. D'abord, on va peut-être construire une petite version, puis on va la tester, poser des questions. Tout ça, en fait, pour moi, c'est avant tout du bon sens. En revanche, ce que ça induit, c'est que des grands groupes n'ont pas forcément cette mentalité-là, les collaborateurs des grands groupes. Et donc, tout l'enjeu que j'avais chez Faber Novel, c'est d'arriver à d'abord faire prendre conscience aux collaborateurs de grands groupes, quel que soit leur niveau, l'ampleur des transformations qui sont en cours et surtout de quoi on parle. Et puis surtout derrière, qu'est-ce que ça va demander en termes d'évolution d'état d'esprit pour qu'ils soient aussi rapides, aussi agiles que peuvent être des plus petits acteurs qui viennent les chercher.
Est-ce que tu as des exemples c'est une question peut-être un peu... où ça a marché ? Non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression, et je connais très mal en fait le monde des grands groupes, etc., mais j'ai l'impression qu'ils sont tellement gros, qu'il y a tellement d'inertie, qu'il y a tellement peut-être d'enjeux politiques aussi, de choses, de politique interne en tout cas, que en fait, c'est juste quasiment impossible, ou en tout cas que ça va prendre du temps. Et tu vois, mais justement, enfin, je suis curieux d'avoir un peu, tu vois, peut-être vos réussites là-dessus, ou en tout cas, tu sais, par exemple, dans quel ordre de temps il faut pour arriver à faire évoluer un grand groupe, quoi, je sais pas. Fin...
Ouais, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse évidente. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne crois pas du tout à la transformation en mode Big Bang, quoi. Il n'y a pas un avant et un après, surtout quand on se parle d'entreprises avec plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Je crois beaucoup à la stratégie des petits pas. Ça paraît un petit peu, tu vois, difficile à... Enfin, c'est un peu conceptuel, mais souvent, j'ai tendance à dire, en fait, il ne devrait pas y avoir de chief digital, chief transformation, chief innovation, chief tout ce que tu veux. Tu as réussi une transformation quand ce sujet, il est pris en main par chacun des collaborateurs et chacun des collaborateurs, à son niveau, arrive à être le chief transformation officer de la boîte. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, comme tu le dis, il y a tellement une inertie. Ce qui est difficile, c'est le système à créer autour pour qu'en fait, t'aies cette liberté d'action en étant dans un grand groupe. Et donc, c'est pas facile et ça passe par des actions de tous les jours. Et c'est sûr que ça va prendre du temps. Et les boîtes avancent à des vitesses plus ou moins comparables. Voilà.
C'est intéressant parce que je pense qu'il y a des boîtes où il y a carrément non seulement de l'inertie, mais même une forme de résistance.
Ouais, carrément.
Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce truc que... Alors, je sais pas, peut-être ce que je veux dire, c'est un peu bête, mais tu vois, quand tu dis « il ne devrait pas y avoir un CEO », je ne sais plus comment c'est, le chief CEO.
Chief Transformation Officer, chief Digital Officer.
En fait, peut-être que c'est vrai que si ça infusait un peu dans les différents pôles, enfin via les différents directeurs, etc., ça éviterait... que justement de canaliser, enfin moi j'imagine que ces postes-là, des fois, enfin moi j'en ai vu à l'époque de Simplon, on avait eu l'occasion d'interagir pas mal avec des gens chez L'Oréal, etc. Et en fait, ils doivent se battre, quoi. Ils doivent se fighter tout le temps.
Tout de suite, ça introduit une notion de territoire. Ouais. On parle de département digital. Tu vois, même la notion de département.
Ouais.
Et si tu penses à la terminologie, tu vois, c'est intéressant. Ouais, département, division, ça induit des silos, ça induit un périmètre, ça induit une propriété, quoi. Donc tout de suite, t'as un sujet qui est la propriété de quelqu'un. Et quand on parle de transformation digitale, d'innovation, en fait, justement, ça ne devrait être la propriété de personne. Et l'enjeu, c'est de diffuser dans toutes les couches d'une entreprise et dans tous les métiers, quoi.
Ouais. Et alors, est-ce que tu as quelques exemples, enfin, je sais pas, un peu de choses
Ouais, écoute, de quoi je peux parler j'ai beaucoup fait de learning expédition. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça. Se dire, OK, on envoie des cadres dirigeants à San Francisco ou ailleurs. Et en fait, quand même, ce que j'ai vu, c'est que c'était des super électrochocs. quoi. Donc je peux pas te citer le nom des boîtes, mais tu vois, certaines entreprises du CAC et autres où en fait on réécrivait pendant le week-end une partie du plan strat digital en étant rentré le vendredi de San Francisco, parce qu'en fait la rencontre qu'on avait eue, je sais pas, j'ai visité les usines de Tesla, quand on est allé chez Google, quand on est allé chez Andreessen Horowitz, donc c'est des acteurs qui sont vraiment précurseurs à San Francisco et qui à l'époque avaient un temps d'avance vraiment, ça permettait d'avoir une vision, en tout cas de voir par la fenêtre ce qui allait se passer d'ici 2-3 ans en Europe. Ou parfois, à l'inverse, du coup, de réagir et de se positionner à contre-courant. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Donc via ces learning expéditions qui ont été souvent un accélérateur et vraiment un déclencheur d'investissements, de moyens supplémentaires sur le digital qui ont arrosé derrière une partie de l'écosystème en France et ailleurs. Je pense aussi à des beaux programmes d'entrepreneuriat. On parlait de donner la main, tu vois, où là, on crée les conditions, tu vois, on crée le cadre. On se dit, voilà, on va prendre quelques collaborateurs, leur donner un projet à développer en interne. Parfois, ils le trouvent aussi. Et on leur donne 6 mois pour travailler ce projet-là. On essaie de recréer la frugalité, justement, propre aux startups. Et in fine, ils doivent présenter ce projet à leur CEO au COMEX. D'abord, ils n'ont pas forcément l'occasion de croiser leur CEO, tu vois, ou d'avoir une heure et demie privilégiée avec lui ou elle. Et parfois, du coup, derrière, ça donne des investissements et des projets qui prennent vie, quoi.
J'imagine que, de toute façon, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette inertie à cause de la taille, bah, finalement, tu es obligé de prendre un projet de zéro, peut-être pour avoir une chance de lui appliquer des méthodologies un peu plus de start-up et avoir ce cadre, parce que des choses qui sont déjà en cours ou qui sont déjà dans les process habituels...
Carrément, c'est toujours plus simple, souvent proche d'approche bac à sable, tu vois, de démarrer à partir de rien et de créer à côté. Après, la question, là où ça devient difficile, c'est une fois que tu l'as créé à côté, que tu l'as laissé grandir, c'est comment tu le réintègres dans les opérations, justement, on en parlait. Et c'est là que souvent que ça bloque, c'est là que ça frotte, quoi.
Voilà. Ouais, moi je vois ça aussi plus du côté des DSI, etc. Enfin, encore une fois, à l'époque de Simplon, même d'ailleurs plus récemment, même en no-code, on a eu comme ça on a pu expérimenter avec des grands comptes, justement, comme tu dis, un peu une approche plus bac à sable, MVP, enfin des choses un peu des POC, quoi, des preuves de concept. Mais sauf qu'après, ça devait vivre en dehors du système d'information. Et si ça marchait bien, en fait, souvent, ce qui se passait, on a pas mal fait ça avec GRDF, c'était mis à la poubelle. Et puis, c'était la DSI qui redéveloppait tout, quoi.
Bien sûr. Fameuse usine à POC, tu vois, au final. Ça produit que des expérimentations et rien ne passe à l'échelle. Donc, faut pas tomber là-dedans non plus, quoi.
Ouais. Après, au moins, ça permet, ça peut un peu, on va dire, désengorger la DSI.
Carrément. Et puis ça permet de tester des choses. Les DSI n'ont pas forcément les bandes passantes là-dessus. Exactement. Et donc, de tester, d'expérimenter plus facilement en créant un environnement de test à côté, quoi. Donc, ça a ses avantages aussi, évidemment.
Ouais, non, c'est hyper intéressant. Juste dernière question un peu sur tout ça.
Ouais.
Est-ce que, c'est encore une fois un sujet que je connais mal et où j'ai un peu des a priori, c'est le citizen developer.
Ouais.
Ce côté un peu, cette personne qui travaille dans les métiers, comme on dit, donc voilà, qui va pouvoir un peu s'emparer d'outils, low code, no code ou quel qu'il soit, pour créer ses propres outils en interne. Est-ce que ça, vous l'avez vu un peu? Est-ce que vous avez accompagné? Est-ce que, je sais pas, je sais pas où on en est vraiment là-dessus, parce qu'on en parle beaucoup, évidemment, dans les médias. Mm-hmm. Moi, j'ai pas eu beaucoup de retours d'expérience concrets aussi, parce que je suis pas beaucoup en contact avec ça, mais du coup, je saisis un peu l'occasion.
Je suis aligné avec toi. Je trouve qu'il y a un écart entre la hype sur les sujets no-code, low-code, et encore le degré d'incarnation, de prise en main par les grands comptes sur ces sujets-là. Les premières applications, néanmoins, que je vois, c'est on a mené un gros programme avec un énergéticien français européen avec l'angle de la simplification. Tu me parlais d'exemples de projets, c'était intéressant parce que du coup, on se disait en 2 jours, on va vous aider à automatiser. À l'époque, on faisait ça en Python, c'est pas vraiment du no-code, mais un process qui est extrêmement qui prend beaucoup de temps et puis qui, extrêmement répétitif à faible valeur ajoutée. Et c'était top parce que du coup, en fait, on arrivait avec les collaborateurs de la boîte, des devs Python, et on faisait toutes les étapes, cadrage, etc. Et on ressortait de cet atelier de deux jours avec un script qui automatisait en fait, ce qui pouvait prendre une semaine par mois au gars qui était dans la pièce.
Okay.
C'était d'abord, ça avait un effet un peu magique, quoi. Et on a tendance à dire toute technologie, quand on la comprend pas au début, c'est de la magie, quoi. Donc ça avait un peu un effet waouh. Et ça, c'était assez chouette comme programme. C'est une de mes plus grandes fiertés. C'est un programme qu'on avait appelé Simplified, justement, qui avait très bien fonctionné avec cet angle de simplification. Et en revanche, quand tu tires le fil derrière, ça posait des questions derrière d'organisation, quoi, parce que tu avais quelqu'un qui était en poste et qui se retrouve à plus avoir rien à faire pendant une semaine. Alors, tu as beau dire des tâches à plus haute valeur ajoutée, mais in fine, tu as toujours un CFO qui se posait la question, qui te dit mais en fait, là, du coup, on a besoin de moins de monde pour faire les mêmes tâches. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a aussi un angle un peu social derrière. On parle beaucoup d'automatisation. Si c'est faire ça pour supprimer des emplois, je ne suis pas convaincu que ce soit bénéfique, tu vois. Donc, c'est comment tu arrives à créer de la valeur qui soit bénéfique pour tous.
C'est en plus, tu as évoqué ça tout à l'heure avec quand on parlait un petit peu en off de Switch Collective. C'est un vrai sujet, peut-être on y reviendra, mais ces postes qui vont disparaître.
Tout à fait.
Et c'est vrai que nous, on a aussi ce discours, tu vois, par rapport aux outils no-code, de pouvoir un peu automatiser, donc de gagner du temps. Mais c'est vrai que dans le cadre de quelqu'un, soit d'une TPE, soit d'un freelance, le temps qu'il a gagné, soit il peut ne rien faire, je veux dire, et puis soit il peut travailler plus s'il veut, soit il peut effectivement peut-être trouver ces choses à plus forte valeur ajoutée. Mais plus le poste est spécialisé et tout, plus effectivement, je pense que le temps qui est gagné, des fois, il est, les boîtes ne doivent pas forcément savoir comment appréhender.
Comment l'utiliser, quoi. C'est de nouvelles questions qui se posent, qui sont totalement nouvelles, quoi.
Après, ça, j'ai envie de dire, c'est des bonnes questions.
C'est des bonnes questions à se poser.
Mais après, comme tu dis, il y a un angle social où il peut y avoir une tentation aussi de réduire.
Réduire les effectifs. Quoi.
Exactement, écoute, super intéressant. Passons peut-être au sujet du Numa. On a pas mal de choses à se dire là-dessus. Est-ce que tu as envie. Alors, tu es arrivé relativement récemment, tu le disais tout à l'heure.
Avant début d'année,
Donc là, on est, pour ceux qui écouteront plus tard, on est au mois de juin. Enfin, je perds même la notion du temps. Ça fait deux ans, donc j'ai dû chercher un peu. Est-ce que tu veux peut-être replacer un petit peu le contexte, en tout cas, du Numa. Enfin,
dire
un petit peu ce que c'est.
Voilà. Alors, Numa, précédemment, s'appelait Silicon Sentier, qui est une association qui a beaucoup participé à la structuration de l'écosystème d'innovation en France, notamment à Paris, qui a participé à la création des premiers espaces de coworking avec la cantine, participé aux premiers espaces, aux premiers programmes d'accélération, d'incubation de start-up avec le camping, notamment, qui avait aussi des activités plus B2B à destination des grands comptes, de conseils en innovation, acculturation sur les sujets du digital et de l'innovation globale. Et donc, il y a eu un changement de nom. Je ne saurais pas exactement dire la date, de Silicon Sentier à Numa, avec des super bureaux que moi, j'ai connus, que tu as dû connaître aussi, justement dans le sentier, qu'on appelait Silicon Sentier à l'époque.
Là, c'était vraiment le bateau amiral du sentier, j'ai envie de dire.
À cette époque, il y avait une campagne de crowdfunding, je me souviens, c'était assez important. Les gens, ton nom sur les marches.
Exactement, D'ailleurs, c'est une anecdote, mais on avait organisé un hackathon avec Simplon pour Arte. Dans ces locaux du Numa, et c'était pour moi c'était un des meilleurs hackathons auxquels j'ai participé. J'ai participé pas mal de hackathons d'ailleurs à l'époque en tant que dev.
C'est la grande époque de hackathons.
Quand on a organisé celui-là, c'était vraiment super, quoi, franchement, et notamment grâce au lieu aussi. Donc ça reste un très bon souvenir.
Pour repartir du lieu, aujourd'hui ces bureaux on les a plus, mais parce que en fait on a tellement changé de modèle que c'est plus pertinent d'avoir ces bureaux à Sentier. On pourrait revenir si tu veux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Numa a beaucoup évolué avec un pivot qui s'est fait. On a beaucoup arrêté de faire des choses pour se concentrer sur quelque chose qui marchait. Ça veut pas dire que le reste marchait pas, ça veut dire qu'on a quelque chose qui marchait mieux.
Il y a quand même beaucoup d'activités. Moi, je me souviens, pour autant que j'étais quand même pas mal en contact, je comprenais pas tout ce qui se passait. Et puis, il y avait aussi le School Lab qui était dans ces bureaux. Il y avait pas mal de choses, donc ça faisait une espèce de nébuleuse, ce qui était à la fois super, je trouve.
Bien sûr.
Il y avait en bas, c'était un peu open pour tout le monde de s'installer. Enfin, il y avait tous les événements qui se passaient là-bas. Mais c'est vrai que je peux imaginer aussi qu'à un moment, il faille un peu resserrer le focus.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ce point de bascule, il y en a eu plusieurs, mais moi, ce dont on peut parler là, c'est début 2020, où vraiment Nouma s'est concentré sur la formation, en se disant bah voilà, en fait on a accompagné pendant près de 10 ans plutôt des start-upers à monter des boîtes et à créer les modèles disruptifs de demain. Et le rôle a été plutôt bien rempli sur cette activité-là. Et se dire, bah voilà, demain, enfin aujourd'hui, on accompagne plutôt les leaders d'aujourd'hui, de grands groupes, à devenir des leaders plus modernes, des leaders de demain, quoi. Et donc, on se concentre sur une activité principalement B2B, à destination à la fois des grands comptes, beaucoup d'ETI, ETI quoi, en région, et puis beaucoup de start-up, de licornes françaises, donc avec quasiment tout le monde sur le marché, des Conto, des Mano Mano, des Miracle, des Doctolib, des Alma, etc., qui sont des gros clients. Ce qu'on fait, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail, c'est qu'en fait on se positionne comme l'école virtuelle sur les nouvelles pratiques de travail. L'école virtuelle sur les nouvelles pratiques de travail, tout est important là-dedans. Ce qu'on fait, c'est principalement une chose et on essaye de le faire très très bien, c'est des classes virtuelles de 2 heures qu'on appelle des workshops. Un workshop égale une thématique avec à chaque fois 12 participants d'un seul groupe, donc 12 participants de BNP Paribas, 12 participants de Miracle, 12 participants, etc. Et un coach. Un coach qui va être quelqu'un qui est encore en poste ou freelance, mais qui va avoir 15-20 ans d'expérience. On part vraiment du principe que pour nos formations, on ne veut pas avoir des professeurs, on ne veut pas avoir non plus des consultants, on veut avoir des gens qui font et qui vivent ces sujets qu'on anime, qui sont à la fois des sujets de leadership, des sujets de management, des sujets d'hybride, comment on travaille dans ce monde où en fait plus personne n'est vraiment dans une seule et même unité de lieu en même temps, et puis des sujets d'innovation. Et là, c'est l'héritage Nouma dont on parlait, accélération de start-up. On a beaucoup de workshops sur centricité client, design thinking, agilité, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on éditorialise, on crée une sorte de playlist, un peu comme un menu ou comme une playlist Spotify. Okay. On va mettre 4 ou 5, entre 5 et 7 workshops sous chaque thématique, sous chaque playlist. Donc, on va avoir une playlist, celle qui marche le mieux que j'ai en tête, on a une playlist Courage Managérial. On va aider des jeunes managers, 27, 30 ans, d'abord à rendre excitant ce job de manager dont finalement plus personne ne veut, et puis à les former dans cette prise de poste pour que leur prise de poste soit réussie. Et donc ça va être une suite de 5 à 7 workshops pour les aider à prendre en main ce job. On a une autre playlist sur le courage managérial qui va traiter de sujets qui vont de... on a un workshop conversation difficile, on a un workshop apprendre à dire non, okay. On a un workshop posture de manager. C'est tout ce qu'on n'apprend pas en fait, soit en école d'ingénieur, soit à la faculté, soit en école de commerce, en école de management justement, et qu'on apprend sur le tas en faisant plein de bêtises. Ouais. Et donc nous, j'ai tendance à dire qu'on a un super terrain d'entraînement pour les participants, avec ces sessions donc uniquement en ligne, 2 heures, 12 participants et un coach à chaque fois. Voilà.
Ok, c'est hyper intéressant parce que, je sais pas, moi j'ai toujours été un peu convaincu que le management ça s'apprenait pas, comme tu dis, que ça s'apprenait sur le terrain et tout, et que c'était aussi des compétences un peu intrinsèques en fait. C'est-à-dire que il y a des gens, surtout en France, je trouve qu'il y a beaucoup ce truc, il y a des gens qui sont propulsés managers parce qu'en fait ils en ont pas vraiment envie, mais l'évolution de carrière juste
fait que
ils y sont contraints et en fait après quand même maintenant un peu l'expérience que j'ai, je me rends compte quand même qu'il y a des choses qui s'apprennent et notamment des choses très concrètes. Enfin, ça me fait réagir quand tu dis apprendre à dire non par exemple.
Carrément.
Et tant qu'on te l'a pas dit et qu'on t'a pas expliqué comment le faire surtout de manière concrète, tu le sais mais tu sais pas le faire. Enfin, tu sais que tu dois dire non mais tu sais pas comment.
C'est apprendre à dire non de manière constructive pour que ça fasse progresser ses équipes, ou apprendre à dire non alors que c'est la 15e fois qu'on doit dire non, quoi. C'est ça qui est difficile en fait.
Bien sûr.
Et pour revenir sur ce que tu disais, si je peux rebondir, tu vois, tu parles de compétences innées. Moi je suis un convaincu déjà qu'il faut changer le langage. Encore une fois, on parle de terminologie, tu vois. Alors ça se traduit mal, mais on parle de soft skills, hard skills. Autant chez Faber on était beaucoup sur des hard skills, tu vois, former former les gens à la data, ouais, au marketing digital. Chez Numa, on est plutôt sur des soft skills, tu vois. Mais en vrai, on a un biais avec soft skills parce qu'en fait, c'est doux, ouais, gentil, etc. En vrai, les compétences managériales, c'est un des compétences qui sont parfois pas du tout faciles à exercer.
Ouais, dur.
Dur, quoi. Licencier quelqu'un, faire un feedback à quelqu'un qui s'y attend pas du tout et un feedback négatif. Ouais, ouais. Et puis, c'est des compétences qui sont extrêmement dures à apprendre, justement, parce qu'elles s'apprennent pratiquement sur le tas, quoi. Ouais. Et l'angle qu'on a via Numa, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une proposition de valeur hyper intéressante sur le marché, c'est qu'on apporte le moins de théorie possible. Tu vois, on a renversé le 80-20. Tu vois, il y a plein d'acteurs sur le marché, sur le learning, qui se positionnent en disant bah, on va faire des formations à 80% sur le quoi et sur le pourquoi. Mmh. Mais une fois que tu as compris sur pourquoi il faut faire du feedback et c'est quoi un feedback, tu n'as rien appris. Ouais. Nous, chez Numa, quand on a un workshop de 2 heures sur le feedback, tu en sors à 80% sur comment tu fais du feedback. Et donc, c'est finalement principalement que des études de cas, des mises en situation concrètes avec 12 participants. Donc, c'est très pragmatique, okay, et tu en sors vraiment avec des bonnes pratiques, des outils extrêmement opérationnels à mettre en place dès la fin du programme. Voilà.
Et il y a un autre truc que tu as dit sur lequel je voulais rebondir, c'est le côté que les coachs sont en poste.
Ouais.
Parce que ça, je pense que c'est un truc aussi, pour travailler dans la formation aussi, je vois bien la problématique. C'est, je ne sais pas si tu connais OnTrain.
Si, très bien. Mon copain de Benoît.
Ok, d'accord. Ouais. Parce que du coup, j'avais interviewé Guillaume.
On parle tout à l'heure là.
Et donc, et c'était intéressant. C'est lui le premier qui m'a fait réaliser ce truc-là, puisqu'ils ont un peu ce modèle aussi, sur des cibles un peu différentes. Et je trouve ça hyper important et hyper et d'avoir des gens en poste dans en plus des postes intéressants,
je pense que c'est une des grandes modifications, disruptions, je sais pas si on appelle ça disruption, mais liées au Covid pour le coup, tu vois, Numa, le Covid, c'est pas la meilleure chose qui nous est arrivée, mais ça a été un énorme accélérateur du business. Pour nous, ça a été une vraie opportunité, quoi. Pourquoi? Parce que avant, les RH, les directions du digital avec qui on travaille avaient ce biais, si tu veux, on disait une formation, c'est forcément en présentiel. Et la formation en ligne, c'était apprendre tout seul, en asynchrone, avec finalement regarder des vidéos, regarder des slides. Et on n'apprenait pas ensemble en ligne. Et la grande disruption avec le Covid, c'est que en fait, tout le monde a dû digitaliser ses programmes, sinon tu mourrais. Ouais. Donc je l'ai fait chez Faber à l'époque, et Numa l'a fait aussi à son époque avec ce pivot-là. Moi, je suis arrivé après. Mais ce qui a été fait, c'est de se dire, on va finalement créer ces classes virtuelles, 12 participants, le rendre hyper pragmatique et finalement, même si c'est en ligne, au contraire, tu vois, c'est en ligne et c'est pas grave, tu vois. Et nos coachs considèrent que faire de la formation en ligne à plusieurs, c'est pas une version dégradée du présentiel, au contraire, tu vois. Ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et puis, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre ? Ça a aussi permis, tu vois, ce côté distanciel Covid, d'avoir accès à n'importe quel expert finalement à distance. Et donc se dire qu'en fait si t'as je sais pas, chez OnTrain, un expert data mais qu'il est à Lyon ou n'importe où en Europe ou dans le monde, tu peux le faire intervenir dans une classe virtuelle. Nous, c'est pareil. Je saurais pas te dire combien de nos coachs, parce qu'on a une académie de 50 coachs sur ces sujets de management, leadership hybride, ils sont à Paris ou pas à Paris, mais
t'as même pas besoin de savoir.
J'ai même pas besoin de savoir, je m'en fiche, quoi. C'est pas le sujet, quoi. Du moment qu'ils ont une bonne connexion internet, bon, ça demande quand même une certaine installation, tu vois.
Faut pas le négliger, effectivement.
Faut pas négliger, tu vois, parce que du coup, ils ont un super micro, ils ont un peu le système d'éclairage d'influenceurs Instagram, tu vois.
Mais c'est hyper important.
Parce que c'est hyper important, faut que ce soit vraiment quali, quoi. Et du coup, de les faire intervenir, et du coup, en effet, c'est des gens plutôt en poste ou alors freelance, c'est une partie de leur activité. Pour certains, c'est devenu une partie majeure de leur activité. On a un de nos coachs là qui a atteint 200 workshops animés avec nous, tu vois, on a fêté ça, mais c'est pas le cas de la majorité. Et en fait, pour eux, c'est extrêmement simple parce qu'ils se connectent, voilà, ils mettent leurs écouteurs, ils animent un workshop. Et de la même manière pour les participants, tu vois, quand tu travailles dans un grand groupe, dans une PME, dans une licorne, t'as pas forcément le temps de te faire 3 jours de formation pour devenir un super manager. Au contraire, avoir des petites sessions de 2 heures qui se calent dans ton agenda à base de une fois toutes les 2 semaines, en fait, ça se fait très bien, ça rentre très bien. Et donc, si tu veux, le besoin auquel on répond chez Numa, c'est se former sans mettre le business, l'opérationnel en pause. Et du coup, ça répond à un gros problème de la formation aujourd'hui. Et le Covid a été plutôt une opportunité là-dessus.
Ouais, non, c'est clair. Nous, on a vécu ça aussi un petit peu, contraint et forcé, mais finalement, pour le meilleur. Parce que comme tu dis aussi, c'est important de donner accès, en fait, au plus de gens possible.
Mm-hmm.
Et il y a quand même beaucoup de gens, encore plus maintenant, qui sont salariés dans des grandes boîtes, enfin, n'importe où, qui ne sont pas à Paris, quoi.
Ouais, qui ne sont pas
à
Paris.
Si toutes les formations se passent à Paris, t'exclus, déjà, comme tu le dis, sur les coachs, mais même encore plus sur les participants.
Carrément.
Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin,
c'est assez élitiste, et puis du coup, tu te coupes toute une partie de la population des participants. Et puis aussi, ça permet d'avoir des coachs qui sont au plus proche du terrain, au plus proche du métier, quoi. Mmh. D'avoir vraiment des faiseurs, enfin des praticiens, quoi, tu vois, de ces sujets de management, leadership hybride, et pas des gens qui l'ont théorisé via des recherches, et voilà,
ouais.
Chacun son avis là-dessus, mais moi j'ai le mien, ou des consultants qui le vivent pas non plus au quotidien, parce que c'est un peu différent d'être dans une boîte de conseil, ouais. Pour être passé par là aussi, quoi.
Oui, oui, non, enfin nous on a vécu ça à Saint-Plon, là. Recruter des formateurs aux devs, c'était très difficile.
Ouais.
Parce qu'en fait, ceux qui étaient le meilleur, c'était les devs qui étaient devs en poste, quoi. Il n'y a que eux qui étaient à jour.
Bien sûr.
Alors ça ne veut pas toujours dire que c'était des bons formateurs, mais ça, mm-hmm. C'est un autre une problématique. Mais si certains étaient bons aussi, il fallait les accompagner. Il y avait des gens qui étaient très bons en pédagogie, mais qui n'étaient pas du tout à jour, qui n'étaient pas. Et donc, c'était problématique aussi, quoi.
C'est clair, j'imagine.
Bon, ça, c'est un peu le sujet de la formation, mais c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que ça commence à changer. Et ce que je dirais, peut-être que tu me confirmeras, mais encore une fois, par rapport à ce truc d'être en poste,
mm-hmm.
c'est qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire un peu de formation.
Ouais.
Mais pas faire que ça non plus, quoi.
Mm-hmm. Ouais, carrément.
Donc,
Même, je pense que s'ils faisaient que ça, ils s'épuiseraient, quoi. Je pense que, heureusement, notre coach qui a fait 200 fois, 200 workshops, mm. Il a pas fait 200 fois un feedback, tu vois.
Ouais.
Parce que sinon, je pense que tu pètes un câble.
Ouais.
Mais je pense que ça peut apporter, tu vois. Ouais. Former, finalement, c'est se remettre en question, c'est un effet miroir, c'est une prise de recul. Et puis aussi, des gens un peu comme moi qui aiment transmettre. Et ça apporte beaucoup aussi. On
parlera y a beaucoup de
slasher,
gens, en fait.
Tu vois.
Ouais. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de transmettre, qui n'ont pas envie d'en faire leur métier.
Exactement.
Mais qui ont envie.
Ouais, puis ils ont des choses à raconter, quoi. Des histoires, plein d'erreurs, des bêtises qu'ils ont faites en management, parce que c'est possible d'en faire plein, quoi. Et puis, ça permet d'appréhender mieux les choses en se disant, un tel, il a fait ça, et du coup, je ne vais pas le refaire, parce que je sais que ce n'est pas une chose à faire, quoi.
Ouais.
Voilà.
Non, on est bien d'accord. Non, écoute, c'est hyper intéressant. Alors revenons sur le sujet quand même, on parle un peu de nos codes. Non mais parce que là on a bien placé le contexte, on a bien compris, tu vois, vraiment toutes ces formations, donc on voit bien la problématique, c'est-à-dire 50 coachs potentiels, des dizaines de workshops donc à planifier, organiser, envoyer les invitations, tout ça. Comment ça marche au niveau des ops, quoi ? Comment les opérations de tout ça
Écoute, peut-être je peux te faire un petit peu de chronologie pour commencer. Juste pour avoir quelques chiffres clés, tu vois, en 2020, on commercialise cette offre workshop, formation, on pivote dessus, on commence à voir que ça marche. 2020, il faut se dire qu'on fait 25 workshops par mois, tu vois. Donc 25 workshops par mois, ça se fait. C'est donc 25 fois 2 heures, un par jour à organiser. Pour lequel, en effet, tu as raison, il faut trouver un coach, caler les horaires du workshop avec le coach, avec le client, envoyer les invitations, envoyer les liens Teams, ouvrir la session Teams, noter ceux qui sont inscrits, ceux qui sont pas inscrits, enfin ceux qui sont présents, pas présents, envoyer les fiches d'émargement, envoyer les questionnaires de satisfaction, etc. etc. Donc, en gros, il faut se dire que à cette époque-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui si on se remettait à le faire à la mano, organiser un workshop, c'est 2 heures de préparation en amont, en petites tâches, finalement hyper opérationnel. Tu vois, pour répondre à ta question.
Donc vous aviez des gens ou une personne.
On a une équipe, on a une équipe qu'on appelle les Customer Success Manager chez nous, CS, ils sont 6 et l'équipe finalement a assez peu grossi depuis. Et donc 2021
malgré le passage à l'échelle.
Malgré le passage à l'échelle parce que justement 2021 on passe à 100 workshops
par mois.
Donc là tu vois tu es plus un par jour quoi.
Ouais.
Ça devient un peu plus galère à organiser.
Ouais. x4
et aujourd'hui là on a fêté aujourd'hui notre premier mois à 200 workshops par mois donc tu vois ça n'a rien à voir en termes finalement de volume et on n'aurait pas pu passer à l'échelle en termes de nombre de workshops si on n'avait pas fait le choix du no-code.
200 par mois, ça fait 10 par jour.
C'est une grosse machine. Ça commence, voilà. Il faut automatiser sinon t'as pas le choix. Et en parallèle, ce qui est intéressant de dire aussi, je pense, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est forcément quand tu augmentes le volume comme ça, on a quasiment multiplié par 8 en fait le nombre de workshops en 2 ans par mois, c'est en fait de se dire comment tu fais pour pas baisser la qualité, quoi. Parce que forcément tu as des loupés. Et en fait le no code, hors erreur humaine de j'ai mal rentré les infos, j'ai mal rentré le nom du participant qui a pas rentré l'invitation, ça nous permet finalement de limiter les erreurs. Limiter hors erreur humaine tout bug, qui a toujours des petits bugs, etc., évidemment, mais et ça nous a permis d'augmenter la qualité et surtout de manière constante. Quand tu regardes les courbes, non seulement on a une courbe assez exponentielle en termes de nombre de workshops, et pareil sur la qualité, quoi. En 2020 on devait être à 4,2, donc on note de 1 à 5 par nos participants, on enlève 0 note, quoi, on triche pas, donc 4,2, ce qui était déjà pas mal. Aujourd'hui en moyenne on est à 4,6. Ça veut dire quoi, 4,6? Ça veut dire que 93% de nos participants mettre une note en sortie de workshop entre 4 et 5. Donc global, et y en a beaucoup qui mettent 5 sur 5 du coup, tu vois. Donc on a un niveau de qualité sur le marché de la formation qui est absolument exceptionnel, et c'est notamment dû au no-code. En fait, on aurait pu se poser la question à l'époque de pas faire de no-code, mais il aurait fallu augmenter la taille de l'équipe de manière équivalente, ce qui n'était pas possible.
Ouais, et puis comme tu dis, il y a un truc qui est très important à souligner, enfin nous on aime bien le répéter, c'est que le fait d'automatiser, en fait quand on fait des tâches manuelles, plus on en fait, plus c'est répétitif, plus on a des risques de faire des erreurs.
Bien sûr. Ouais.
Et de pas toujours bien appliquer le process. Quand on board un nouveau collaborateur, tu vois, si tu disais, si vous aviez fait le choix de grandir l'équipe, le nouveau collaborateur au début il va plus se tromper, il faut bien lui transmettre les informations, souvent c'est mal documenté, alors que quand c'est automatisé, c'est la machine qui a ce fil rouge, elle exécute tout le temps pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'erreurs, comme tu dis,
bien
il y
aura
des erreurs à l'entrée. Puis des fois, il peut y avoir un bug, on va dire.
Oui, il y a des bugs, comme toujours.
Mais au moins, ça se passera toujours pareil, tel que ça a été programmé, quoi.
Exactement. Ça demande de bien penser le truc au départ, mais une fois après que tu fais les choses de manière minutieuse et patiente, je dirais, le truc roule plutôt quand même. Voilà.
Et comment vous vous y êtes pris alors pour mettre en place ça, avec qui vous l'avez fait, comment, est-ce que vous avez fait des ateliers avec justement ces CSM, enfin...
Ouais, carrément. Écoute, à l'époque, on s'est posé la question, j'étais pas là, mais je crois, de recruter un dev dédié pour des questions de ressources et d'agilité et plutôt d'expérience à acquérir. On a plutôt décidé de partir avec un freelance. Arnaud qui nous a aidé sur ce sujet-là.
Arnaud Vadendry. J'ai toujours un peu peur de prononcer ce nom parce qu'il est un peu compliqué. Mais que j'ai interviewé dans le podcast, épisode 46, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 45. Bon.
Qui se reconnaîtra et qui nous a aidé à faire nos premiers pas sur le no-code. Donc évidemment, on a fait des ateliers entre notre directeur des opérations de l'époque, Baptiste, le CEO de l'époque, Romain, et puis aussi toute la partie Customer Success pour vraiment partir du besoin, quelle était la plateforme dont nous, on avait besoin pour automatiser tout ou partie, et aujourd'hui quasiment toute la partie opérationnelle est extrêmement répétitive à faible valeur ajoutée.
Est-ce que ça a été progressif du coup? Genre un peu d'abord une phase un peu semi-manuelle, on va dire, puis petit à petit.
Ça a pris entre 4 et 6 mois de passer l'ensemble de nos workshops sur un outil no-code. Donc nous utilisons Airtable globalement, et puis après une Zapier, et puis ensuite après un certain nombre d'outils à côté dont on a besoin, type Zoom, Google Agenda, etc. Donc en 4 à 6 mois, on a complètement tout passé sur Airtable. Ça s'est fait de manière progressive. En fait, on a pris les sujets un par un, quoi. Si tu veux, pour nous, sur Airtable, on suit chacune des étapes du projet et on a fonctionné comme ça, quoi. Donc d'abord, tu commences par créer le client. Ensuite, tu crées le projet. Ensuite, tu crées les workshops qui vont avec. Ensuite, tu inscris les participants. Et en fait, à chaque étape, on a commencé à inclure de l'automatisation. Voilà, donc on a vraiment fait en fonction du process et de du parcours. Si tu veux, qu'avait un projet chez nous et du coup de ce que ça représentait en termes de tâches pour l'équipe Customer Success chez nous.
Est-ce que tu sais si ça avait été même modélisé peut-être sur papier ou je te demande ça parce que nous on essaie vachement d'inciter les gens aussi à faire tout ce travail que tu dis. se poser les bonnes questions, mais même voilà, mettre limite sur papier, tu vois, un peu ce truc-là.
Je ne saurais pas dire.
Ça, c'était plus par curiosité. Non. En plus, on a une petite formation sur les process, justement.
Ah bah ça tombe bien. Ouais. On aurait peut-être suivi, ça nous aurait fait gagner du temps, peut-être. Voilà.
Ouais, après, autant ça a été fait, tu vois. Mais je trouve que c'est. Dans la communauté no-code, les gens se jettent beaucoup dans les outils, évidemment. Il y a beaucoup d'entrain. Et puis, c'est un peu comme des jouets, tous ces outils no-code.
Ouais, c'est hyper facile, quoi, d'appréhension. Tu n'as pas besoin de coder, tu n'as pas besoin de compétences extrêmement techniques.
Exactement. Mais je pense que des fois, ça fait un peu oublier aux gens de se poser un peu les questions. Déjà, par exemple, déjà de bien modéliser les données. Tu vois, comme tu l'as dit, vous avez commencé par Airtable. Quoi.
Ouais,
avant même qu'il y ait des automatisations, d'abord, il faut vraiment qu'il y ait une base de données qui soit cohérente, pertinente. Et c'est là aussi où se faire accompagner par des freelances,
des
experts.
Ça nous fait gagner un temps extrêmement précieux. Et puis, dès le début, on a souhaité avoir une référente en interne sur ces sujets, no-code. Donc, c'est une personne, c'est nous, qui s'occupe justement que de ça, qui s'appelle Johanna, qui est notre... Enfin, pas que de ça, justement. Elle y passe entre 2 et 3 heures par semaine aujourd'hui. Okay. Finalement sur ces sujets no-code, c'est pas une tu parlais de citizen dev là, elle va pas développer des nouvelles automatisations, des nouvelles fonctionnalités. Pour ça, on passe toujours par notre freelance, par Arnaud.
Mais c'est elle qui fait l'interface.
C'est elle qui va récolter les besoins quand il y a des nouveaux besoins. Et puis surtout, c'est le niveau 1 de résolution de bugs. Parce qu'en fait, quand on organise 200 workshops par mois, le moindre petit bug peut avoir des conséquences.
Et ça doit arriver, j'imagine.
Et ça arrive tous les jours. Et donc, elle est capable de traiter ce niveau 1 de bug. Et c'est extrêmement précieux pour nous. Ça nous rend beaucoup plus agile d'avoir cette ressource en interne qui peut déjà comprendre ce qui se passe, régler le problème. Et si ça ne va pas, escalader, faire appel à notre free.
Ça, c'est un super retour. J'avais déjà eu un épisode où on a, mais plus côté asso, fait, où les gens que j'interviewais, une agence qui travaille beaucoup avec des assos, ils disaient qu'il faut une personne dans l'asso qui soit un peu référente. Il faut trouver la personne un peu plus
A
le plus d'appétence, etc. Et pour un peu qu'elle s'empare du sujet. Et ça ne veut pas dire pour autant que cette personne qui va tout faire, comme tu dis, mais ça, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah non, bah, il faut que j'ai quelqu'un qui comprenne tout, qui soit expert table ou qui se forme, etc.
Mm-hmm. »
Alors que je pense que... Est-ce qu'elle s'est formée un peu, par exemple, ou c'est Arnaud qui lui a transmis?
Ouais, c'est Arnaud qui lui a transmis beaucoup. Nous, on est très communication asynchrone chez Nouma parce que c'est ce qu'on prodigue à nos clients. Beaucoup par vidéo. On a en fait une vidéo d'une heure que moi j'ai regardée dès que je suis arrivé d'Arnaud qui explique concrètement comment on crée un projet et toutes les étapes de la création d'un projet et de système de cohorte chez Nouma, parce que du coup la complexité du modèle c'est que comme on fonctionne par cohorte de 12, c'est les mêmes participants pour les 12 personnes. Quand tu commences une cohorte, ensuite si tu as 7 workshops, il faut que ça envoie 7 invitations les 12 mêmes participants à chaque fois. Et quand tu as X cohorte sur Y programme, ça devient très 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 galère à gérer.
J'imagine le modèle de données.
C'est pas évident. Et donc typiquement c'est une vidéo d'une heure qui explique vraiment pas à pas comment on fait. Donc beaucoup par formation asynchrone et puis après beaucoup sur le tas et ce qu'elle fait, et elle fait un super boulot. D'ailleurs c'est l'occasion de souligner son excellent travail évidemment, mais elle met à jour aussi beaucoup le FAQ, enfin le système d'aide et qui permet parce qu'évidemment tout le monde s'est formé finalement en interne sur Airtable, c'est notre outil quoi. On dit chez Nouma qu'on n'est pas une ad tech et aujourd'hui on est assez peu identifié comme une ad tech, mais en vrai si Airtable plante demain, la boîte explose quoi. Donc je sais pas si ça nous positionne comme une ad tech. En tout cas on a réussi à scaler, à passer à l'échelle en faisant sans avoir aucun dev, dev qui code, et principalement en s'appuyant sur des outils no-code comme Airtable. Donc ça, c'est assez chouette à raconter quand même. Et qu'est-ce que je veux dire après? Et du coup, ça permet à tout le monde finalement aussi de monter en compétence via ce FAQ qu'elle a mis à jour, et du coup, de comprendre comment on fait tel type de projet qui va sortir un petit peu plus de l'ordinaire, comment on modifie tel truc. Voilà, elle permet en alimentant cet outil-là, à tout le monde de monter en compétence en continu.
Super intéressant. Donc, c'est vraiment un très, très bon retour d'expérience. Est-ce que vous avez chiffré un peu l'impact que ça a eu, le ROI, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment ça se calcule forcément, tu vois, mais ce passage à l'échelle.
Bon, on a quelques chiffres clés, évidemment, je me suis penché dessus. Donc ce que je te disais, c'est 2 heures de préparation à peu près pour chaque workshop qu'on a automatisé. Ouais. Donc quand c'était 25 workshops par mois en 2020, tu automatises 50 heures, bon, ok. Quand tu enlises 200 workshops, fois 2 heures, 400 heures, tu vois, que tu économises par mois, c'est beaucoup, quoi. Donc tu vois, j'estime, et c'est pas réel de penser comme ça, parce qu'on pourrait pas avoir deux personnes, deux ETP qui font ça toute la journée, elles se tirent une balle, quoi. Mais quand même, tu vois, on a une vraie économie de coûts ici, et au-delà des coûts, tu vois, je vois quand on recrute, par exemple, nous on est une boîte, tu vois, dans laquelle tu viens bosser, chef de projet formation ou même BizDev, où tu sais que tout ce qui est logistique, formation, tout ce qu'on a automatisé, tu vois, émargement, envoi des questionnaires de satisfaction, envoi des fiches synthétiques, envoi des invitations, etc., qui se fait aujourd'hui de manière totalement automatique, ne sont pas à faire par les équipes. Et ça, c'est un vrai facteur de marque employeur, ouais. En fait. Tu vois, quand je fais les entretiens, tout de suite, ça fait partie des questions qui sont posées. Et là, on a une vraie réponse à dire, écoute, non, comparé à la boîte où tu étais avant, tu n'auras pas du tout à te soucier de ça. Au contraire, tu vas pouvoir prendre en main un outil qui est super. Et en plus, moi, je suis assez friand de ces sujets de no-code, te dire, tu vas prendre en main un outil no-code. Et donc, potentiellement, tu vas développer ton employabilité parce que je pense que c'est une compétence qui va être utile plus tard, tu vois.
C'est ce qu'on pense aussi. Enfin, tous ces outils-là, à mon avis, tu parles d'Airtable, par exemple. Enfin, moi, je suis convaincu qu'on est à quelques années de que ça soit dans un CV,
bien sûr,
une ligne indispensable, et que les gens ils vont arrêter de mettre bureautique, Word, Excel et tout ça.
Exactement.
Et mettre plutôt des choses comme Airtable, comme Zapier, comme Make. En tout cas, j'espère,
carrément.
Bon, on est un peu.
Non, mais carrément. Mais... Donc là, tout le monde n'a pas le même niveau, évidemment, mais tout le monde sait prendre en main, tout le monde sait comment fonctionne l'outil. C'est indispensable quand tu travailles chez Doma. Et puis donc ça nous a servi pour les inscriptions, l'émargement, aussi pour tout ce qui est reporting. Finalement, il y a deux types de reporting chez Numa. Tu as le reporting pour les coachs, parce qu'on va leur faire un reporting sur quelles ont été leurs notes, les feedbacks des participants et comment ils peuvent s'améliorer. Ça se fait de manière totalement automatisée. On a une vue par coach, donc les coachs accèdent directement sur Airtable. Ils n'ont même pas besoin de demander en fait les notes après les sessions, quoi. Donc ça, on gagne du temps.
Ouais.
Ça rentre aussi dans les 2 heures. Et puis après, dans les 2 heures aussi, il y a tout le reporting client. Donc tu vas former, 850 personnes sur le courage managérial. La DRH qui a acheté ce programme, elle a envie de savoir comment ça se passe. Et puis elle a envie de savoir en temps réel comment ça se passe. Bon, elle a créé un espace sur Airtable et elle va pouvoir voir en temps réel quelles sont les notes des sessions, de la journée, d'hier, de la semaine dernière, les classer, se créer ses propres vues, etc., voir les commentaires, voir quelles sont les prochaines sessions à venir, voir quel est le nom des participants, etc. Donc aussi, on forme nos clients à utiliser Airtable, même si ça reste quand même globalement assez simple une fois que tu as créé la bonne vue. Donc, ça rentre dans les 2 heures aussi d'optimisation de temps gagné, quoi.
Petite question un peu technique peut-être, mais juste je suis curieux. Du coup, vous leur donnez accès directement à Airtable ?
Ouais.
Avec un compte Airtable, enfin, ou vous leur créez une vue ?
On leur crée une vue, ouais. On leur crée une vue. Ouais.
Donc c'est vous qui leur créez et puis eux là ils voient.
Exactement. Ouais, c'est une sorte de front client, quoi.
Okay.
On commercialise pas tant que tel, c'est pas un argument de vente pour nous.
Okay.
Mais quand même, ça crée un seul outil de suivi et de reporting pour clients. Et ce que je vois, c'est que mes équipes, elles passent pas 2 heures à créer des slide decks, des présentations PowerPoint sur comment s'est passée la formation de la semaine dernière. Finalement, ça crée un outil qui le fait à ta place, quoi.
Dans les formations B2B, enfin, j'en parlais encore il y a pas très longtemps avec des partenaires, c'est un vrai sujet, quoi.
C'est
indispensable. Si les services RH, etc., enfin, ou des services formation forment des collaborateurs, elles veulent absolument savoir ce à quoi ils ont été formés, comment, dans quel temps.
Ouais, mais c'est normal de savoir.
Bien sûr.
Quel est un peu le ROI, le retour sur learning, tu vois, de ces sujets-là, quoi.
Non, mais je te posais la question, en fait, c'est juste parce que c'est un sujet, les interfaces dans Airtable, où on est encore... Alors, il y a des gens qui vont construire des interfaces avec des outils comme Stacker, des choses comme ça, ou alors faire comme vous faites directement avec des vues. Mais ce n'est pas encore vraiment facile, je trouve, de donner accès à vraiment un bel espace, tu vois.
Ouais, parfois ça peut faire un peu peur au début, quoi, mais finalement le bénéfice, il est tellement immédiat d'avoir accès à toutes les infos sur un seul endroit sans avoir à demander à finalement Nouma, enfin tu vois,
bien sûr, ouais.
Et une fois que c'est pris en main, c'est vraiment génial pour le client, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, c'est les feedbacks qu'ils nous font.
J'imagine qu'ils préfèrent en plus avoir ça, des choses qui sont quand même très concrètes et bien visuelles, que je sais pas, des fichiers Excel ou des slides où ils peuvent rien en faire. Enfin, ils subissent un peu le
ouais, c'est temps réel, c'est transparent, c'est modulable. Ouais. Tu vois, ils peuvent créer des analyses sur le mois dernier, sur trois mois. Et ils peuvent faire un peu créer les vues qu'ils veulent. Alors, on les accompagne pour ça, évidemment, en démarrage de projet. Et puis, nous, on cache rien, quoi. Tu vois, quand un participant met 0 sur 5, ça arrive, bah, il le voit, quoi. Et donc, ça crée cette transparence qui est assez saine, finalement, d'une relation partenariale. Bah,
là, tu les mets au, tu leur donnes accès à toi, ton centre de vérité des données, quoi.
Ah ouais, c'est le truc que nous, on suit, tu vois. On suit quelques indicateurs, évidemment, pour piloter Nouma. On suit chiffre d'affaires, booking, etc. Et l'indicateur qu'on suit aussi, c'est la qualité des workshops. Mmh. Et donc, on suit ça de manière journalière, mensuelle et au trimestre. Et ça, c'est des données qu'on extrait automatiquement d'Airtable. Ça nous agrège les notes moyennes de tous les workshops sur le quadrimestre.
Ah non, c'est hyper intéressant. Est-ce que juste une petite question, attends, je vais regarder le temps, non, c'est encore un petit peu de temps. Très rapidement, est-ce que, alors on n'a pas parlé de, je veux juste dire deux mots sur Switch Collective, on va venir après, juste peut-être un peu sur, en dehors, enfin en même temps, bon, la formation, j'imagine que c'est le plus gros de vos ops, enfin tu l'as très bien expliqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être où vous utilisez dans votre travail au quotidien des outils no code, ou je sais pas, un peu comment vous vous organisez, tu vois. Je sais pas s'il y a des choses intéressantes à dire ou pas.
Non, on l'utilise surtout sur les opérations. C'est là où ça a le plus de valeur ajoutée.
Et vous, toutes vos opérations, c'est la formation.
Ouais, c'est la formation. Donc, c'est le cœur du business aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est clair, okay. À 99%. On réfléchit là des nouveaux outils pour le CRM, tu vois, pour créer. Aujourd'hui, on a des outils CRM hyper classiques, type HubSpot, etc. Ouais. Là, je suis en train de creuser, tu vois, pour se dire, ok, c'est super, mais comment on peut créer des séquences qui soient un peu plus malignes et donc avoir une sorte de Zapier, IFTTT, mais sur. Une campagne client, quoi. Donc si un client a pas lu ou si un client a réagi tel truc, comment on peut le retargeter avec le bon contenu au bon moment. Et ça, tu as des outils aujourd'hui qui sont pas mal, qui permettent de faire ça. Donc je pense que la prochaine étape pour Nouma, c'est ça, c'est sortir le no-code de la partie opération où là, le taf il a été plutôt bien fait pour aller sur d'autres sujets, notamment tout ce qui est prospection.
Sales,
principalement.
Bah, c'est le sujet, tu vois, nous, c'est vraiment le truc qu'on trouve intéressant au niveau des ops, quoi. C'est vraiment ce côté transverse. Et t'as les sales ops, CSM ops, RH ops, enfin tout est en ops maintenant, même les designs, tout.
Exactement.
Et je trouve ça assez passionnant parce que suivant la taille de l'équipe ou quoi, enfin peut-être qu'à un moment vous allez recruter quelqu'un qui s'occupera que des ops de manière transverse et qui va outiller différents métiers ou je sais pas. Enfin tu vois, je l'ai vu, j'ai interviewé Pauline qui était chez un bootcamp qui s'appelle Akimbo. Et donc c'est intéressant, tu vois, parce que justement elle est de manière transverse, elle aide tous ses collaborateurs.
Ouais, ok.
Ou pareil chez Jelly Smack, bon c'est une grosse boîte donc ils ont toute une équipe qui est dédiée que à ça, qui fait, ils ont plein de devs aussi. Et je trouve ça assez passionnant, quoi, tu vois. Je demandais à Lilian là qui travaille chez Jelly Smack, il me disait bah moi mon rôle c'est d'aider, de simplifier la vie des Jelly Smackers, quoi.
Ouais, c'est une super mission, quoi. Tu couches le soir, c'est sympa, quoi.
T'as fait gagner du temps, de la productivité, tu vois.
Vraiment, de la productivité et puis des tâches à du coup plus haute valeur ajoutée, un peu plus intellectuelle. Donc ça, c'est chouette. On n'en est pas encore là pour Nouma. On se posera peut-être la question d'ici 1 ou 2 ans. Là, on a trouvé un bon système qui permet de passer à l'échelle. Tu vois, 200 workshops par mois. Et je te dis, ça permet aussi d'augmenter fortement la qualité. Ouais. Le taux de complétion aussi des formulaires de satisfaction de nos programmes qui est passé de près de 35 à 75% via l'automatisation, en fait. Et on se posera la question peut-être d'un recrutement spécifique no code dans les prochaines années, pourquoi pas.
Si ça a du sens. Hein.
Si après, ça a du sens,
Moi, j'aime bien aussi ton retour d'expérience sur la collaboration avec un expert.
Bien sûr. Et la bonne expertise au bon moment.
Et une référente. Je trouve que c'est aussi un
système de référente, vraiment, ça fonctionne super bien. De power sponsor, quoi.
Je sais plus si tu l'as dit, mais juste pour rappeler le nombre de personnes que vous êtes, enfin, de collaborateurs.
On est 35 chez Nouma.
C'est juste pour que les auditeurs.
Une petite boîte, 35 personnes.
Non, mais tu vois, ça donne aussi le contexte, comprendre quel moment aussi on peut travailler juste avec un freelance ou quel moment on peut avoir besoin de quelqu'un en interne.
Carrément.
Et après, il y a des gens qui peuvent faire le choix de l'interne, même en étant plus petit, mais tu vois, justement, ça, le contexte, c'est important.
Carrément.
Il nous reste 5 minutes. Je voulais juste que tu dises deux mots peut-être sur Switch Collective.
Ouais, carrément.
Parce que moi, je trouve que c'est un très beau projet. Comme je te le disais en off, c'est là où on a organisé un de nos tout premiers ateliers sur le no-code et tout ça. Donc voilà.
Ouais, écoute, Switch Collective, c'est une startup qui a racheté Numa. Donc avant mon arrivée, entre 2020 et 2021. Donc Switch Collective, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite startup. J'ai 10 collaborateurs chez Switch qui se positionne sur le bilan de compétences avec un angle vraiment différent d'un bilan de compétences classique qu'on fait avec un coach qui te dit bon bah ce que tu vas faire demain, c'est comptable, boulanger, j'en sais rien, tu vois.
Ça se voit déjà juste dans la communication, hein,
oui, voilà.
Sur les réseaux sociaux.
Un ton très décalé, ouais. Avec une forte identité de marque. Donc Switch Collective, c'est une boîte qui a été créée il y a 6 ou 7 ans. Un programme qui s'appelle Fais le bilan, de 40 heures qu'on est en train de modifier un petit peu en ce moment-là, qui aide en fait des gens, parce que c'est du B2C, hein, donc tu t'inscris sur la plateforme. C'est financé aujourd'hui en grande partie par le système de CPF. Donc du financement public de la formation et en 40 heures de formation, enfin en 40 heures justement pas de formation mais de session, tu vas avec un coach et avec 24 autres participants, tu vas faire le bilan et en fait redéfinir ce que nous on appelle la boussole, donc ton pourquoi, ton quoi et ton comment. Est arrivé à mieux t'aligner. Donc souvent ça dépasse en fait juste trouver un nouveau métier, c'est trouver un nouveau sens à sa vie, trouver un métier qui a du sens, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça la mission et le rôle de Switch. C'est évidemment, tu vois, quand on parle de trouver un métier qui a du sens, quelque chose qui résonne aujourd'hui avec les thématiques de grande démission. On parlait un petit peu, tu vois, d'obsolescence des compétences, d'obsolescence des métiers. Moi, je suis convaincu que, en fait, demain, il n'y a plus de carrière tout tracée, quoi. Le modèle où tu sortais d'école avec un métier, tu allais passer 40 ans dans la même boîte, ça va de moins en moins exister. Et ça, il faut d'abord en prendre conscience. Et donc, finalement, le savoir-faire qui va la première compétence demain, ça va être d'apprendre à switcher, d'apprendre à se remettre en question et d'apprendre à avoir des parcours qui soient moins linéaires. Et donc tout le monde va devoir switcher. Et en fait, switcher, depuis 6 ans, c'est un parcours, c'est un process qu'on a façonné, construit. Et donc le programme Fait le bilan, il permet de passer par ce process-là et donc d'aider à définir sa prochaine étape et à se réaligner avec soi-même entre qui on est et ce qu'on fait dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est avec, pour revenir sur le sujet de nos codes, donc Béa et Clara, qui sont les fondatrices de Switch Collective, elles avaient dès le début en fait intégré cette notion, cette dynamique no code, avec Airtable aussi, parce que pareil, elles ont des sessions de 24 participants qui démarrent toutes les semaines, et donc en fait pour 12 semaines, et donc rapidement ça devient une grosse machine à gérer en fait, c'est des systèmes d'envoi de mails chaque jour pour chaque promo, c'est pas les mêmes mails, il y a des systèmes d'émargement aussi comme ces systèmes de financement public, etc. Et donc très rapidement ça devient compliqué à gérer à la mano. Ouais. Et donc chez Numa, via cette acquisition, on a aussi beaucoup appris sur le no-code et ça nous a permis d'accélérer et de se dire ok, c'est vraiment la bonne décision pour Numa, formation, du coup l'activité B2B, quoi. Voilà.
Ah, c'est hyper intéressant de voir un peu comment les organisations se répandent aussi.
Se pollinisent, quoi, je dirais. Ouais. Comment tu prends une bonne idée qui n'est pas la proposition de valeur clé de Switch. Tu te dis, OK, d'un point de vue, hop, s'ils ont craqué un truc qui est hyper intéressant, qu'est-ce qu'on peut en faire chez Numa ? Comment ça peut nous aider à passer à l'échelle et à gagner du temps, quoi. Voilà.
Ouais. Ah, écoute, super intéressant. Là, on participe un petit peu à cette pollinisation, voilà, en partageant un petit peu les histoires, en instigant ça un peu peut-être dans l'esprit des gens. Écoute, super intéressant. Je regarde si j'ai oublié de te demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter peut-être ?
Non, rien à rajouter. Je pense que pour nous, l'enjeu, c'est ce que j'essaye d'instiguer chez Numa, mais qui fait quand même bien partie de la culture, c'est d'arriver toujours à se remettre en question, tu vois. Et je suis un passionné de l'innovation et l'innovation continue, tu vois. Et je trouve que ce qui me passionne avec le sujet technologique et notamment avec le no-code, c'est que ça évolue très, très rapidement, tu vois. Et donc, travailler, avoir des boîtes comme Contournement et d'autres, tu vois, avec un écosystème assez structuré, qui commence à se structurer sur ces sujets, ça permet aussi de rester en veille, de savoir quelles sont les bonnes pratiques, les outils, les trucs un peu tendance qui marchent plus ou moins bien, tu vois. Et donc, de rester au top et d'avoir toujours une longueur d'avance, à la fois par rapport à nos concurrents et surtout pour nos clients, quoi. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est un vrai enjeu pour nous d'arriver à pas se reposer sur nos lauriers et à se dire, OK, comment on se met toujours dans une dynamique de déséquilibre avant pour avoir toujours un temps d'avance, notamment sur les sujets no-code.
Voilà. Ouais, non, c'est intéressant parce que c'est le... Moi, je vois bien aussi cette innovation constante qu'il faut avoir quand on entreprend, je pense, de pouvoir s'appuyer sur des outils. Enfin, je parle sur la partie opération, donc de pouvoir déployer des choses plus facilement et les passer à l'échelle grâce aux outils. Je pense que c'est un... Enfin, c'est un des vrais atouts du no-code, quoi. C'est-à-dire, ça doit pas être un problème de scaler et de s'organiser et tout, quoi. Quand on a des bonnes idées, quand on veut, si on fait des bonnes formations, la partie, et en France, elle est conséquente, la partie, on va dire, administrative, etc. Ça doit pas être un sujet, quoi. Ce qui doit être le sujet, c'est de faire des bonnes formations, d'innover au niveau de la pédagogie.
Ouais, concentrer sur l'essentiel, quoi.
Exactement.
Tout à fait.
Bah, écoute, ça sera un petit peu notre mot de la fin.
Ça marche.
C'est très bien. Où est-ce qu'on peut te suivre si les gens veulent te contacter, ou est-ce que tu publies un peu, je sais pas, sur les réseaux?
Je publie un peu sur LinkedIn principalement, qui est le canal privilégié. Je publie pas mal sur le modèle de télétravail. Chez Nouma, on a un modèle 90-10, donc on est à 90% de télétravail. On se voit tous ensemble que deux jours par mois en présentiel à Paris. Du coup, c'est aussi une de mes... Tu vois, là où j'apprends le plus en ce moment chez Nouma, c'est la culture de travail que ça induit derrière.
Ouais.
Donc pour ceux qui sont passionnés par tout ce qui est nouvelles méthodes de travail, travail en hybride, dans une boîte qui est quasiment full remote, même si en fait vous n'êtes pas organisé aujourd'hui en majorité en distanciel et en télétravail, il y a plein de bonnes pratiques à apprendre là-dessus sur comment on travaille en asynchrone et quels sont les rituels et les nouvelles pratiques de travail là-dessus qui sont applicables, encore une fois, même si on est à deux jours par semaine en télétravail. Voilà.
Ouais, non, c'est hyper... c'est un sujet, moi qui nous touche aussi, même on en parle pas mal dans la communauté no-code. Du coup, je vais te poser une dernière question qui n'est pas vraiment liée au no-code, mais est-ce que vous utilisez des outils genre GatherTown, des choses comme ça? Des bureaux virtuels, en fait.
Alors, on n'en est pas encore là. On se pose la question, en effet, pour recréer une sorte de présence à distance. Ce qu'on utilise beaucoup, en revanche, c'est les outils comme Loom, qui permettent, en fait, c'est un peu une note vocale en mieux, quoi. Tu vois, t'as quelque chose à expliquer à un client, tu vois, tu peux faire un mini pitch de ta propale à un client, ou tu veux expliquer à un collègue un raisonnement que t'as eu, un truc que t'arrives à craquer, bah, en fait, au lieu d'envoyer un long mail, tu fais un petit Loom, tu te filmes devant ton ordinateur, une vidéo de 5 minutes, en fait, ça fait gagner un temps de fou, quoi. C'est trop bien.
Je pense que nous, on est grand convaincu du travail asynchrone en général et de tous les moyens de communication asynchrone.
Exactement. Ça fait gagner en efficacité. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça déshumanise pas les relations, bien au contraire, parce que quand tu te vois à la fois en présentiel ou quand tu as tes points one-to-one, en fait, tu as éliminé 80% de l'opérationnel via l'asynchrone en amont. Et donc, tu peux te concentrer vraiment sur comment ça va, Alexis, quoi, et répondre à la question vraiment, quoi. Un échange beaucoup plus humain et finalement, encore une fois, on se concentre sur l'essentiel, quoi.
Super. Bon, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt. Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange vous aura plu. Voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant, plein de choses, un échange auquel je m'attendais pas forcément d'en apprendre autant et de vraiment de voir un petit peu toutes ces pistes. En plus, vous imaginez bien le sujet de la formation, forcément ça nous touche. Et puis j'ai été content aussi de retrouver un petit peu des choses qu'ont fait des gens de la communauté, en l'occurrence Arnaud. Je te salue si tu écoutes cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le Slack de NoCode France, channel podcast contournement, pour continuer la discussion. Et puis abonnez-vous en tant qu'affaire aussi à ce podcast, ne ratez pas les prochains épisodes qui seront, j'espère, tout aussi passionnant. En tout cas, on fait tout pour. La semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode. Alors, si vous écoutez en temps réel les épisodes, je suis désolé, il y aura un petit décalage. Là j'avoue que la saison 9 sera peut-être pas aussi régulière que ce que j'ai pu faire par le passé. En plus, c'est l'été, tout ça. Donc voilà, mais il y aura des épisodes très régulièrement. J'ai une belle playlist. Le prochain épisode, donc, qui sera, je pense, dans 2 semaines, ça sera autour d'un projet dont vous avez entendu parler, évidemment, une des boîtes les plus en vue du no-code. Voilà, une discussion que j'ai hâte d'avoir, j'ai déjà mentionné. Donc voilà, on va parler vraiment de start-up qui passe à l'échelle, qui démarre, qui passe à l'échelle avec du no-code. Et puis moi, je suis curieux de voir un peu la collaboration avec les développeurs. Bref, ça sera probablement le sujet du prochain épisode. Bref, je vous en dis pas plus, et j'ai envie de vous laisser avec un petit truc un peu différent pour une fois. Genre, si vous avez écouté déjà jusqu'ici, c'est merci beaucoup, parce que c'est quand même un assez long échange, et puis là c'est une longue fin de conclusion. Mais vous l'avez peut-être vu passer, on a un nouveau projet créatif qui est plutôt mené par Erwan, qui s'appelle les Fables des Ops. Les Fables des Ops, voilà, donc en hommage à Ésope, donc voilà, qui avait écrit des fables là en Grèce il y a très longtemps, qui ont inspiré, enfin voire bien plus qu'inspiré La Fontaine. Et donc voilà, on trouvait que le jeu de mots avec les Ops, puisque donc les opérations, hein, le sujet vraiment qui nous intéresse le plus chez Contournement, on trouvait ça assez rigolo. Donc voilà, c'est des fables qui parlent un peu sous un angle un peu particulier, enfin voilà. Comme des fables, hein, avec une moralité, etc., mais qui parlent du no-code, des opérations. Et donc voilà, j'ai envie de vous faire, puisque Erwan, parmi les nombreuses qualités artistiques qu'il a, il sait aussi slammer, rapper, etc., et donc il a fait une lecture des fables qu'il a écrites, et donc je vais vous mettre la première, voilà, pour conclure cet épisode. Si vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit emoji sushi, hein, comme d'habitude. Voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi des fables. On a eu des retours assez sympas, pour l'instant on n'a pas fait une énorme communication dessus, on l'a partagé un petit peu sur nos réseaux, mais voilà, là vous allez avoir l'occasion d'écouter en audio, donc je vous laisse tout de suite avec ça, ne raccrochez pas tout de suite, il y a encore 1 minute 30 à profiter, et moi je vous dis à très bientôt.
Le tank et la mouche. Une mouche irritait un passant, revenant à l'attaque, stressante. Son insistance rappelle ce truc angoissant, des manips numériques répétitives dont chacun maudit l'existence. Elle tournoie, il crie, elle plonge, il vrille, elle se pose, il fuit. Direction son garage, le fameux, celui des informaticiens et informaticiennes de génie. Voilà le châssis, toute mon ingénierie, mais où est le moteur, où je l'ai mis? Il réunit le canon, le blindage, les obus, la chenille. À jamais il jure, ben voyons, dans toute sa démesure de moyens, de laisser la bourdonneuse en haillons. Un ami, le voyant, lui tendit une tapette, ou plutôt, pardon, une zapiette. Pour ça, utilise du no-code simple, tu ne lis pas la gazette? Pourquoi sors-tu l'artillerie lourde face au rondin? Il sent Osef, par grommelant des railleries sourdes dans son engin. La mouche apparaît et la boum, il tire vers elle. Puissance, énergie, effort, gasoil se déchaînent dans cette querelle. Même si un petit piège astucieux au bout d'un fil lui suffit, il veut ce qu'il y a de plus sophistiqué, l'acier plus que le liège, telle est sa philosophie. Airtable et Zapier, trop simple. Et vas-y que c'est des grosses couches de un corps que je te flanque. Il se perd, il sue, il s'enlise, et paf, rien que la mouche couche le tank. Car il a choisi un outil trop ample. Moralité. A toujours privilégier l'excès de puissance, on finira par foutre le monde en l'air. Une fois assemblées, des briques simples trouvent mille sens. Telle est la magie du modulaire.